histoire d'en dire plus.
Moins 40.
C'est le Nord. Tu m'as demandé, mon petit.
Monte, on m'appelle Mamie.
Et Mamie Tromblon, elle s'est déjà fait tromper, Mamie Tromblon, hein.
Mais il connaît pas Raoul, ce mec.
Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure.
Tu m'aides pas, là?
Non, pas là, non.
Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on parle d'un film culte du réalisateur Ridley Scott. Un film culte du féminisme. Vous aurez reconnu dans le titre Thelma & Louise. Allez, c'est parti, mon kiki. Alors, Thelma & Louise, ou Thelma & Lewis, en titre original, est un film américain réalisé par Ridley Scott et sorti en 1991. Il raconte l'histoire de deux femmes, Gina Davis, qui joue Thelma, et Susan Sarandon, qui joue Louise, dont l'excursion d'un week-end se transforme en cavale à travers les États-Unis. Ce film met également en scène Harvey Keitel, ainsi que Brad Pitt, dont la carrière a été lancée par ce long métrage. Écrit par la scénariste Kelly Khoury, ce film a failli ne jamais voir le jour devant la méfiance de bon nombre de producteurs et réalisateurs, en raison de son thème et de sa scène finale d'anthologie qui tranchait avec la production hollywoodienne classique. À sa sortie, le film suscite une polémique aux États-Unis, notamment parce qu'il met en scène deux héroïnes répondant par les armes à la violence masculine. Il remporte cependant plusieurs prix, dont l'Oscar du meilleur scénario original. À l'intersection de plusieurs genres cinématographiques, il est aujourd'hui considéré comme un classique, a influencé d'autres films et d'autres œuvres artistiques, et est devenu un film culte du féminisme. Le synopsis, un film de 129 minutes. Thelma Lauren Dickinson, la trentaine, et l'épouse au foyer frustrée et soumise de Daryl, archétype du macho, d'autant plus parfaitement inconscient de son ridicule que son complexe de supériorité est renforcé par sa réussite professionnelle. Louise Elizabeth Sawyer, son amie, serveuse dans une cafétéria, l'a convaincue de s'évader pour un week-end à la montagne. Quittant l'Arkansas, elles sont bien décidées à profiter de ces heures de liberté. Elles s'arrêtent en cours de route dans une boîte de nuit. Alors qu'un homme essaie de violer Thelma sur le parking, Louise arrive in extremis, sort un revolver et empêche le viol. Devant la vulgarité et l'agressivité de l'homme, elle le tue. Louise refuse catégoriquement de se rendre à la police et décide de prendre la direction du Mexique, entraînant Thelma dans sa cavale. Louise téléphone à son amoureux, Jimmy, pour qu'il lui envoie de l'argent à un motel d'Oklahoma City. Mais mystérieusement, elle ne veut pas passer par l'État du Texas. Le meurtre ayant été découvert, la police, après une rapide enquête, est sur la piste des deux femmes. Des agents, comptant sur un appel téléphonique qui permettrait de les localiser, s'installent en présence de Daryl dans la maison du couple. Arrivées à Oklahoma City, elles y retrouvent Jimmy qui a apporté l'argent et qui en profite pour demander à Louise de l'épouser. Elle refuse compte tenu de la situation. Pendant ce temps, Thelma passe la nuit avec un autostoppeur Gidi, jeune et rebelle, qui leur vole leur argent destiné à financer leur trajet jusqu'au Mexique. À nouveau, Thelma est consciente de sa responsabilité dans la tournure que prennent les choses, constatant le désespoir dans lequel sombre Louise. À cause de sa négligence, elle ne trouve pas de meilleure idée que de commettre un braquage, directement inspiré par les confidences qu'elle a tendrement arrachées au lit de la bouche de son voleur. Continuant leur recherche, les policiers progressent d'autant plus vite que le délit de Thelma a été filmé par une caméra de surveillance, retrouvant Jimmy, puis l'autostoppeur qui les oriente vers l'Arizona. L'un des policiers, ayant appris que Louise a été violée au Texas il y a longtemps, comprend qu'elles ne sont pas vraiment responsables de cette histoire. De nouveau sur la route, les deux femmes commettent ensuite un excès de vitesse et sont arrêtées par un policier. Elles exhibent alors leur revolver pour le menacer, afin de le neutraliser en l'enfermant dans le coffre de la voiture de patrouille pour qu'il ne donne pas d'indication permettant de les localiser. Elles poursuivent leur trajet et sont amenées à doubler à nouveau un routier qui, comme deux fois auparavant, les interpelle avec insistance par des propos et des gestes obscènes. Cette fois, elle s'arrête pour obtenir de lui des excuses qu'il s'obstine dans son sentiment de supériorité masculine à ne pas présenter et font exploser son camion-citerne. La cavale prend fin au Grand Canyon dans l'Arizona. Prise au piège par une armée de voitures de police, Thelma et Louise préfèrent la mort dans une ultime accélération. Leur voiture saute dans le précipice. Et voilà la fin du film. Comment se termine le film? J'ai eu plein de parodies de ce film, hein, bien sûr, de cette scène qui est rentrée dans les annales, on peut le dire. Donc à la réalisation, on a Ridley Scott, au scénario, on l'a dit, Kali Zuri, à la musique, le grand Hans Zimmer, avec de la musique additionnelle par Peter Haycock. Au montage, on retrouve Tom Noble, ou Sam Noble. À la photographie, Adrian Bridle, c'est tourné en 35 mm. 2/35 en couleur, en anglais. C'est produit par Mimi Polking, Gitlin, Ridley Scott, Dean O'Brien, Kali Khoury, la MGM Pathé Communication et Persimmon Production et Star Partner 3 Limited, distribution MGM et Europe Image Distribution pour la France. Le budget de 16,5 millions de dollars américains, ce qui est assez confortable pour un film de ce type et pour l'époque. Il est sorti le 24 mai 1991 aux États-Unis et le 29 mai 1991 en France. Suzanne Sarandon y joue Louise Sawyer, Gina Davis, Thelma Dickinson, Harvey Keitel, Al Slocum, l'enquêteur, Michael Madsen y joue Jimmy Lennox, le compagnon de Louise, Christopher McDonald, Daryl Dickinson, le mari de Thelma, Steven Dobolski, Max, l'agent du FBI, Brad Pitt y joue J.D., l'autostoppeur. Voilà comme rôle connu. Le scénario Thelma et Louise a été écrit par Kali Khoury, on l'a dit. Elle a voulu mettre en scène deux femmes dans un genre jusque-là masculin. Son idée était née d'une lassitude face aux films américains ne proposant que trop peu de rôles et de bons rôles pour des femmes, en particulier des rôles qui permettent aux personnages de prendre leurs propres décisions et de contrôler leur propre destinée. Elle dit « Je voulais écrire des choses qui n'avait été jamais porté au cinéma auparavant. En tant que cinéphile, j'ai été nourri du rôle passif des femmes. Elles ne conduisaient jamais l'histoire, parce qu'elles ne conduisaient jamais la voiture. Le film Thelma et Louise a comme principal thème l'émancipation féminine, l'accomplissement personnel, la prise de contrôle des femmes sur leur vie, l'empowerment, le pouvoir faire. La scénariste Kali Khoury explique que le thème de la réappropriation de leur vie par les femmes est la base du scénario. L'idée m'est venue une nuit, alors j'étais assise dans ma voiture devant chez moi. Qu'est-ce qui pourrait bien se passer dans la vie de deux femmes, deux meilleures amies, de suffisamment fort pour les obliger à choisir entre ce qu'elles ont de et ce qu'elles pourraient éventuellement avoir. Quel événement, quelle erreur commise, peut-être, pourrait les expédier en voyage dans l'inconnu. À partir de ça, l'histoire s'est déroulée toute seule dans ma tête. Kali Khoury a eu l'idée du film en imaginant d'abord le saut final des héroïnes dans le Grand Canyon. Elle a écrit le scénario en commençant par cette fin. Elle pourrait s'être inspirée d'un canular publié dans la presse californienne en 1912 qui relatait le suicide en automobile d'un jeune couple, Niles Folsom et Thelma Barth, du haut d'un canyon près de Santa Monica. Elle a ensuite dû faire face au refus de bon nombre de producteurs qui craignaient qu'une telle fin soit mal acceptée par les spectateurs. Khoury s'est néanmoins battue pour que cette scène figure dans le film, estimant qu'une fin classique aurait rendu ce film banal et ordinaire. Jusque pendant le tournage, Ridley Scott a subi des pressions de la production pour trouver une autre fin. Mais à défaut de trouver une scène alternative de la même intensité, il est resté fidèle au scénario. Ce faisant, Ridley Scott a pu sceller le caractère héroïque de ses personnages et donner à leur mort une touche de noblesse. La scénariste a été étroitement associée à la réalisation du film, de telle sorte qu'elle fut parfois appelée la troisième femme de Thelma et Louise. Elle a pu longtemps collaborer avec Ridley Scott dans la préparation du film, a participé au choix des acteurs et était présente lors du tournage. Elle a dès lors pu peser sur les options scénaristiques retenues en obtenant le maintien des séquences qui lui étaient chères, notamment celle du viol et la scène finale. Kali Khoury a d'abord voulu réaliser le film elle-même en tablant sur un budget $1 million et a contacté différents producteurs en ce sens. Elle a été confrontée à de nombreux refus. Son scénario est arrivé dans les mains de Mimi Paul Gitlin, qui, elle, a adoré. Il permettait de réaliser un film dans lequel était donné au pouvoir aux personnages féminins et qui encourageait les femmes à s'écouter et à réaliser leurs rêves tout en remettant en question la conception traditionnelle qu'on a de la répartition des rôles masculins et féminins. Elle a augmenté le budget à $16 million, a pressenti Michelle Pfeiffer et Jodie Foster dans le rôle de Thelma et Louise et a soumis le scénario à Ridley Scott au départ pour l'associer comme producteur. Ridley Scott a été séduit par le scénario parce que le fait de placer deux femmes dans les rôles principaux tranchait avec la production cinématographique classique. À ce moment-là, il cherchait à produire autre chose qu'un film, faisant partie du pourcentage très élevé de ceux présentant un personnage masculin comme héros. Il s'est mis ensuite en quête d'un réalisateur. Beaucoup de réalisateurs potentiels à qui il a soumis le projet ont été méfiants et lui suggèrent de le réaliser lui-même. En effet, Ridley Scott avait déjà réalisé Alien en 79, le huitième passager, dans lequel une actrice, Sigourney Weaver, incarnait Ripley, un rôle à l'origine écrit pour un homme. Finalement, Ridley Scott a été convaincu de réaliser Thelma et Louise lui-même. Le lancement de processus ayant pris trop de temps, Michelle Pfeiffer et Jodie Foster n'étaient plus disponibles. L'équipe a dès lors choisi les deux autres actrices, Gina Davis et Susan Sarandon, pour incarner respectivement Thelma et Louise. Bien qu'elles fussent connues, elles n'étaient pas des superstars. Il n'était pas en effet pas judicieux de choisir de grandes stars, parce qu'il ne fallait pas induire aucune idée préconçue sur ces deux personnages. Le scénario prévoit que les héroïnes partent de l'Arkansas, contournent le Texas par l'Oklahoma, puis le Nouveau-Mexique, et arrivent en Arizona, le Grand Canyon. Après avoir effectué ce trajet aux fins de repérage, Ridley Scott a estimé qu'il serait trop coûteux d'emmener son équipe dans un tel voyage. Il a alors choisi d'effectuer les tournages dans un rayon plus petit à partir de trois bases. Los Angeles, où ont été tournées les scènes d'intérieur. Bakersfield, à proximité de Los Angeles, qui offre des plaines irriguées des paysages similaires à ceux de l'Arkansas. Et Moab, dans l'Utah, comme point central d'une région montagneuse où ont été tournés de nombreux westerns, composés de splendides paysages du Far West, pouvant évoquer l'Arizona. Pardon. Dans le script, il n'était pas prévu que Daryl, Christopher McDonald, tombe à côté de sa voiture en quittant précipitamment sa maison pour se rendre au travail. Or, Christopher McDonald, qui portait des chaussures neuves glissantes, est tombé lors de la première prise de vue. Il a néanmoins décidé de continuer à jouer alors que la caméra tournait. À la fin de la prise, Ridley Scott déclare que l'équipe pouvait refaire quelques prises supplémentaires, mais que la première prise est la bonne. Lors de la scène où Louise vomit à côté de la voiture, Susan Sarandon crache en réalité du blanc d'œuf. Certains plans séquences du viol ont été interprétés par une doublure de Gina Davis. Dans la scène où Daryl poursuit le stopper Didi, Christopher McDonald voulait littéralement tuer Brad Pitt et a été retenu par six hommes. Il a dû rejouer 8 fois la scène, si bien qu'il a eu des courbatures le lendemain. Lors de la scène de l'explosion du camion-citerne, des caméras filmaient les visages de Gina Davis et Susan Sarandon, car il était prévu d'utiliser leur réaction réelle. Mais au moment de l'explosion, leur visage est resté figé. Il a fallu donc réinstaller le matériel de tournage, simuler le souffle et la lumière de l'explosion et leur demander de jouer une réaction plus expressive. Lors du tournage de certaines séquences, notamment les plans où Thelma, qui est jouée par Gina Davis, parle à J.D., qui est jouée par Brad Pitt, assis sur la banquette arrière, la voiture était en situation de trafic réel. Susan Sarandon devait alors interpréter son personnage tout en étant attentive à la circulation routière. À sa sortie, le film a créé une polémique aux États-Unis. Certains l'ont considéré comme un film formidable, d'autres comme un film dangereux. On pouvait lire des réactions très enthousiastes. C'est le premier film que j'ai vu racontant la véritable vérité. Citation, hein. J'ai vu ma vie jouer devant mes yeux, ou autre. Par contre, d'autres personnes ont tenu des propos complètement hostiles. C'est l'éloge d'une violence transformative, un thème explicitement fasciste. Il justifie les braquages armés, le massacre d'hommes et la conduite en état d'ivresse chronique. comme exercice d'élévation sans conscience. On pouvait entendre, c'est un film très dur, très corrosif, aussi dérangé moralement et intellectuellement qu'Hollywood peut l'être. Un film qui encourage les femmes à utiliser des armes. Voir, c'est la fin de la civilisation occidentale. La polémique autour de Thelma et Louise a dépassé le cadre strictement cinématographique au point de faire la couverture du Time Magazine le 24 juin 1991. Voilà. Donc, au box-office, le film enregistre 45,3 millions de dollars américains aux États-Unis. En France, il rassemble 954 000 spectateurs en salle. Il reçoit de nombreuses récompenses internationales au Festival de films de Valladolid, aux Oscars, aux British Mini Awards, aux Golden Globes. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur ce film, mes amis. Si vous n'avez pas vu ce film, je vous invite à le voir. C'est un film avec un message très fort et très important, très féministe, très en avance sur son temps. Donc, à voir et à revoir. Je le mets dans la case des films cultes. Voilà. Je vous dis merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de me supporter sur mes différentes plateformes que sont Tipeee, Patreon, Ulule, Acast+. Voilà. Vous avez le droit à des épisodes inédits si vous abonnez. Des épisodes plus longs. D'environ 1h30, 2h, où je rentre dans le détail d'un réalisateur ou d'un film en particulier, où j'analyse les effets spéciaux, la production du film plus en détail, etc., etc. Voilà, je vous dis merci de m'avoir écouté, et ciao, ciao.
Histoire d'en dire plus.
Moins 40
chez le Nord. Tu m'as demandé, mon petit.
Montez, on m'appelle Mamie.
Et Mamie Tromblon, elle s'est déjà fait tromper, Mamie Tromblon, hein.
Mais il connaît pas Raoul, ce mec.
Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure.
Tu m'aides pas là?
Non, pas là, non.